verset 27. L'évangile de Luc, chapitre 5, verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain, Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un habit neuf, un morceau, pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du vin nouveau, car il dit, le vieux est bon. Amen. C'est cette question qui est posée à Jésus qui va nous intéresser. Ici, ce n'est pas tellement une question, mais si vous lisez l'histoire dans l'évangile de Matthieu ou l'évangile de Marc, nous voyons que c'est une question qui a été posée à Jésus. Pourquoi tes disciples mangent et boivent tandis que les autres, et notamment ceux de Jean-Baptiste, connaissent un régime plutôt austère. Ils ont plutôt une vie un peu de monastique. Ils vivent à l'écart, ils vivent repliés. Il y avait un sentiment. Dans l'évangile de Matthieu, nous voyons que cette question a été posée par les disciples de Jean-Baptiste. Et dans l'évangile de Marc, nous voyons que les pharisiens sont là et aussi s'imposaient certaines règles comme cela. On comprend leur question. J'ai lu le texte qui est avant parce que dans les trois récits de ces paraboles et cette question, c'est toujours précédé de la rencontre avec Matthieu et du repas qui s'est produit chez lui. Et on peut comprendre, Jésus mange avec des gens de mauvaise vie, des publicains. Il met en danger sa réputation. Jésus n'a pas peur de ça. Ça surprend, ça choque, parce que c'était impensable pour des juifs. Et forcément, ça crée un décalage. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Même les disciples de Jean-Baptiste ne comprennent pas cette liberté qu'il a. C'est vrai que ça fait un contraste entre les disciples de Jean-Baptiste qui étaient à la rue d'école, ils vivaient séparés de tout, et les disciples de Jésus qui mangeaient, c'était différent. Et on comprend leur incompréhension. Jésus va répondre, il va répondre par une déclaration assez simple, mais aussi pleine de mystère. Il va dire que tant que l'époux est là, ses disciples, les amis de l'époux, n'ont pas besoin de jeûner et de prier. C'est une évidence. Tant que Jésus était là, ils n'avaient pas besoin de jeûner et de prier, ils n'avaient qu'à lui demander. Il était là et il répondait à leurs questions. Mais viendra un temps où Jésus ne sera plus là, il faudra user de la prière, parfois jeûner, pour se tenir devant Dieu. Notons que dans cette réponse de Jésus, Jésus affirme être l'époux, c'est-à-dire qu'il déclare sa divinité. Et notons aussi que Jésus commence à parler déjà de sa mort. Il dit qu'il leur sera enlevé. C'est encore voilé, mais il commence à en parler. Notons aussi que Jésus répond selon leur manière de concevoir le jeûne. Dans l'esprit un peu de l'Ancien Testament, le jeûne, c'est comment dire, on se contrit, c'est un temps d'affliction. Et Jésus donnera, à mon avis, un sens nouveau au jeûne et à la prière. Et puis, Jésus va répondre par cette double parabole, c'est ça sur lequel je veux m'arrêter. Jésus répond par une parabole, pourquoi ? Quand Jésus répond par des paraboles, c'est qu'il veut faire réfléchir. C'est qu'il veut faire avancer les choses. Et il sait que toutes les personnes qui sont présentes ne sont pas au même niveau. Ses disciples sont avec lui depuis quelque temps et ont compris. Les disciples de Jean-Baptiste ne peuvent pas comprendre ce que les disciples de Jésus ont compris. Et les pharisiens peuvent encore moins en comprendre. Aussi, la parabole leur permet d'avancer dans leur réflexion, de cheminer. Et Jésus sait aussi qu'il ne peut pas donner une réponse figée, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qu'il dirait. S'il disait tout, maintenant, ils ne comprendraient pas. La parabole de Jésus, elle est double. Jésus dit qu'on ne peut pas mettre une pièce de drap neuf sur un vieil habit, car celui va exercer une pression, et finalement, tout le vêtement va se déchirer. Au final, on perdra tout. On aura abîmé un vêtement neuf, et le vieux vêtement sera abîmé. Et Jésus dit ensuite qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon celles-ci vont éclater. À cette époque, on traitait les peaux d'animaux pour en faire des outres destinées à conserver ou à transporter le vin. Au début, elles étaient souples et faciles à travailler, mais avec le temps, elles devenaient rigides. Leur capacité à se dilater diminuait. Et elle risquait d'éclater pour cette raison, surtout quand le vin fermentait. Jésus part de deux faits évidents de la vie courante, des choses que les gens savaient, pour dire qu'il y a des choses nouvelles qui ne peuvent pas être mélangées avec des anciennes. Qu'est-ce que Jésus veut enseigner ? Avec ces deux images, Jésus veut nous dire que la vie nouvelle qu'il communique ne peut pas se concilier avec les méthodes de la loi, avec la mentalité de la loi, avec les pratiques de la loi, et notamment les lois cérémonielles, par exemple. Les rites alimentaires, les ablutions, les jeûnes, les cérémonies, les fêtes religieuses, tout ça, c'était l'ordre du passé. Jésus a accompli ces choses-là, ou il a mis un terme à ces choses-là. Voilà un petit peu la pensée de Jésus. Je voudrais donner 5 leçons très simples à partir de cette double parabole et de ce récit. La première leçon, la principale, parce qu'elle est en lien avec l'enseignement de ces paraboles, ne cherchons pas à mélanger la grâce et la loi. C'est quelque chose que j'ai déjà dit, c'est quelque chose que je dirai encore, c'est vraiment quelque chose d'important. Jésus ne le dit pas dans ce passage, mais il est en train d'apporter une révolution. La grâce est une révolution. L'homme est religieux, son effort c'est pour essayer d'atteindre Dieu avec une loi. Et la loi, elle rentre dans ce cadre-là. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais elle est là pour amener un constat d'échec, pour faire comprendre que l'homme ne peut être sauvé par la loi. Et Jésus maintenant apporte quelque chose de révolutionnaire. La grâce, le salut vient d'en haut. Il est en train de la mettre en place. Il est en train de l'accomplir. Il sait que ses auditeurs ne peuvent pas comprendre. Mais il veut bien montrer que la loi et la grâce ne peuvent pas se mélanger. Jésus est en train de mettre fin à la loi, dans le sens qu'il l'accomplit, mais dans le sens aussi qu'il y met un terme. Il met un terme au régime de la loi et il apporte la grâce. Et les deux ne peuvent pas se mélanger. La loi et la grâce sont souvent mises en opposition. J'ai eu l'occasion de le citer il y a quelque temps. La loi, elle est venue par Jésus-Christ. Non, la loi, elle est venue par Moïse, la grâce est venu par Jésus-Christ. La loi révèle le péché. La grâce enlève le péché. La loi condamne le pécheur. La grâce sauve le pécheur. La loi pointe vers le salaire du péché qui est la mort. La grâce pointe vers la solution au péché qui est la vie éternelle. La loi condamne le meilleur des hommes. La grâce sauve le plus vil des pécheurs. La loi exige. La grâce donne. J'avais utilisé cet exemple et je trouve qu'elle est bonne. Elle me va bien. Puis elle reste un peu dans le contexte. Hein, vous avez une super bouteille de vin, un grand cru, des années 1900 et quelques. Et imaginez quelqu'un qui raisonne de cette manière, pour en avoir plus, je vais le mélanger avec de l'eau. Les amateurs de vin crieront sacrilège, parce que c'est pas possible. C'est, je dirais, mélanger la loi à la grâce, c'est un peu faire ça. C'est commettre ce genre d'erreur. J'ai vu des personnes expérimenter la grâce dans leur cœur. à vivre, recevoir le pardon des péchés, mais ne pas, comment dire, être bloqués ou à l'intérieur parce qu'ils ont gardé une mentalité de loi. Ils ont gardé des pratiques de loi et ils n'ont pas su offrir le bon récipient à la grâce que Dieu avait déposée dans leur cœur. Dès qu'on commence à vouloir mélanger la loi et la grâce, on dérape très vite et ça peut très vite se répandre. Ça peut très vite déchirer tout le reste. Jésus donne deux paraboles. Je me suis dit, une aurait suffi, pourquoi il en donne deux? Alors j'apporte un élément d'explication très personnel. J'ai remarqué que l'une évoque un revêtement extérieur et l'autre évoque un remplissage intérieur. Et ça me rappelle les deux aspects du salut. L'aspect où il y a un aspect, une position et il y a une condition. La parabole sur les habits semble pointer vers la justification que Jésus nous donne. La position que nous avons en Jésus-Christ lorsque nous sommes sauvés. Dans Ésaïe chapitre 64, verset 5, il est dit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes flétris tous comme une feuille et nos cris nous emportent comme le vent. » La justice de Dieu, ou la justice tout court, est souvent dépeinte comme un vêtement. Notre propre justice, c'est-à-dire cette tendance à établir notre propre justice, nos propres critères, est comme un vêtement souillé, nous dit la parole. Et la justification par la foi et par son sang constitue le nouveau vêtement que Jésus nous donne. La propre justice et la justification par la foi ne peuvent pas se mélanger. C'est comme ce vêtement, ça va se déchirer. Ça va faire du gâchis. C'est incompatible. Imaginez quelqu'un qui met une belle veste de costume moderne, une belle cravate moderne et qui met un pantalon en pattes d'éléphant des années 75. On dira quoi? Ça ressemble à un clown. Ben, je dirais, ça fait un peu ça de vouloir mélanger les choses. On ne peut pas aussi... Le vêtement que Jésus nous donne... On ne peut pas le garder dessous le vieux. Hein. Il faut enlever le vieux. Il y a quelques années, je visitais sur Uzès une dame âgée. Je crois qu'elle était d'origine protestante et je sentais que la discussion était difficile. Et on revenait toujours sur le fait qu'elle était protestante et aussi qu'elle était couturière. Et je pataugeais un peu, j'avais envie de lui parler de Jésus et je ne savais pas comment. Et puis je sentais que le blocage était là sur le plan religieux et à un moment donné, j'ai la lampoule qui s'est allumée et je me souviens. Je dis, mais vous connaissez le premier couturier? Et là, elle a commencé à ouvrir les yeux. Là, je sentais que je la captais. Je dis, c'est dans le jardin d'Éden. Dieu, il a fait quelque chose de grand. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont cousus des vêtements. Et Dieu est intervenu. Et il leur a donné des vêtements de peau. Et là, je sentais que je la captais. Je sentais que là, c'est... Et effectivement, Dieu a fait quelque chose de beau. Il nous a revêtus d'un vêtement. Un vêtement de peau qui nous rappelle qu'il y a eu un sacrifice pour pouvoir être revêtu. Comprenons bien que Dieu veut nous revêtir de son vêtement, mais il faut enlever les haillons. Hein. Dans le texte que nous avons lu juste avant, il est question de repentance. Vous avez aujourd'hui un évangile qui présente un petit peu l'évangile comme ça. On garde le haillon, mais on met le beau vêtement dessus. Ça ne marche pas. C'est pareil, c'est comme essayer de vouloir bricoler des associés. Il faut enlever les haillons, il faut enlever ce qui est vieux. À ce niveau-là, il faut recevoir ce que Jésus nous donne. Je pense aussi à ce passage dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre de Zacharie, où Josué, le souverain sacrificateur, est accusé par Satan. Et il a des vêtements sales. Et Dieu va intervenir en sa faveur. Et la première chose qu'il dit, ôtez-lui ses vêtements sales et revêtez-le d'un nouveau vêtement. Je crois que c'est bon de se le rappeler, que la grâce, elle va jusque-là, et nous, on ne doit pas chercher à combiner avec notre propre justice et la justice que Dieu nous donne. Faisons pas de mauvais assemblages. Ça va nous embrouiller. Les Galates, ils sont tombés dans ce piège et ils ne s'en sortaient plus. Et puis, par rapport à la parabole des outres, elle pointe plutôt sur la nouvelle naissance, sur la régénération que Dieu nous accorde, sur la vie que Dieu insuffle à l'intérieur de nous et qui change notre manière d'aborder la vie, qui change notre manière de concevoir la vie. C'est un potentiel comme un fleuve qui jaillit à l'intérieur. Et c'est pareil, la vie nouvelle que Jésus repeint, il ne faut pas essayer de la mélanger avec quelque chose de vieux et de faire du bricolage. Parce que ça, non, la vie nouvelle que Dieu répand, elle est pour que tout soit transformé. La Bible dit, voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. C'est bon de se le rappeler. Frères et sœurs, il faut apprendre à enlever les vieilleries de notre cœur. Hein. Alors je dis ça sans être péjoratif. Hein, mais il y a des choses qui peuvent empêcher la grâce de travailler dans ton cœur. Il y a des choses qui peuvent empêcher la grâce de nous transformer à l'intérieur. Parce qu'on bloque, on fige, on empêche la vie de se répandre. On peut avoir des vieilles habitudes religieuses qui peuvent empêcher la grâce de se répandre. On peut avoir des vieilles rancunes, des vieilles histoires du passé qui peuvent empêcher la grâce de se manifester. On peut avoir des vieilles histoires qui sont là et qui polluent notre cœur et qui peuvent empêcher l'œuvre de Dieu de se répandre. Dieu a déposé quelque chose de grand, de beau sur notre vie. Considérons. Considérons et permettons à Dieu de la répandre. La deuxième leçon que je retiens, c'est un peu par extension. Ne faisons pas d'assemblage et d'association malheureuse. C'est dans le texte. Et puis ça revient très souvent dans la Bible. La Bible montre qu'il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Comme par exemple un poste en responsabilité avec quelqu'un qui est stupide. C'est dit dans la Bible. Il y a des assemblages qui ne sont pas envisageables. Mais des fois, on pourrait tenter de le faire par économie, par facilité. Mais au final, il s'avère souvent dommageable et on perd tout. J'ai relu ce texte qui m'interpelle souvent, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais qui nous met en garde contre des assemblages douteux. Dans Deutéronome, chapitre 22, verset 9, il est dit « Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Et tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. » Ah, des textes qui rejoignent un petit peu le premier texte que nous avons lu et qui nous met en garde contre des assemblages qui ne font pas, qui ne fonctionnent pas. C'est difficile d'expliquer le pourquoi de l'interdiction de ces assemblages, mais j'observe que deux objectifs principaux à ces commandements. D'abord, ils sont dans le but de nous protéger et de nous éviter certaines défaillances ou chutes. Salomon s'est noyé dans des assemblages douteux. Et puis aussi dans le but de marquer une vraie différence entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Beaucoup des commandements que Dieu avait donnés allaient aussi dans ce sens-là. Retenons en tous les cas qu'il y a des assemblages qui ne vont pas. Alors c'est un sujet difficile, délicat, parce qu'on peut être des fois très catégorique, mais on vit dans le monde et on est obligé plus ou moins d'être associé. On a un contrat de salarié pour la plupart. On fait partie. Où est-ce que... C'est pas évident. Je n'ai pas les réponses. Il y a des éléments de réponse dans la Bible, mais on ne peut pas apporter une réponse tranchée. Je pensais à ça dans la semaine. Je lisais un article sur une équipe sportive qui affichait son nouveau sponsor. Affiché sur le maillot, il y avait la photo des joueurs avec un grand sourire. Mais ce sponsor, c'est un site pour rencontres homosexuelles. Et la question que je me suis posée, si moi j'étais joueur dans cette équipe, est-ce que j'accepterais ça? Est-ce que je pourrais me dégager de ça? Est-ce que je serais lié par un contrat par rapport à ça? Ça m'a interpellé, mais la question se pourrait se poser pour une boisson d'alcool ou pour... Il y a beaucoup de jeux aujourd'hui de trucs pour le jeu, les paris en ligne, etc. Vous voyez, toutes ces questions-là, et je me suis posé la réflexion par rapport à cela. Je dis bien, ce n'est pas évident d'apporter une réponse tranchée. Mais rappelons-nous ce que nous avons lu. Il y a des assemblages qui ne vont pas ensemble. Alors je dis bien, on ne peut pas être coupé de tout. On vit dans le monde. On a des associations, des mélanges auxquels on n'échappe pas. Mais certains peuvent être dangereux pour notre foi. Certains vont faire qu'à un moment donné, on ne verra plus de différence entre ceux qui appartiennent à Christ et ceux qui n'appartiennent pas. Il y a des assemblages qu'il faut refuser. Il y a des positions douteuses qu'il faut refuser. Et ça, ne le perdons pas de vue. La troisième leçon que je retiens, elle est toute simple. Mais ne demandons pas au Seigneur de faire du raccommodage et du rafistolage. La semaine passée, j'ai cité ce texte où une personne est venue vers Jésus, lui a demandé de faire le partage, l'héritage avec son frère. Et globalement, la réponse de Jésus, c'est dit, « Je ne suis pas venu pour ça, n'embêtez pas avec ça. » Jésus n'est pas venu pour apporter un plus ou un bonus dans notre vie. Jésus n'est pas venu pour apporter un hobby nouveau dans notre vie. Jésus n'est pas venu pour me donner un mari ou une femme. Hein. Jésus n'est pas venu pour me faire gagner plus d'argent ou m'apporter une promotion au travail. Jésus est venu pour quoi ? Jésus est venu d'abord pour changer ma vie, pour pardonner mes péchés, pour faire de moi une nouvelle créature. Voilà le but premier. Alors bien évidemment, il est capable de donner un mari. Il est capable, il pourvoit à mes besoins. Mais rappelons-nous quand même la priorité. Et ne mettons pas Jésus à faire du bricolage. Jésus, il est celui qui veut transformer ma vie. Il est celui qui veut pardonner mes péchés. Il est celui qui veut donner du sens à ma vie. Mais il n'est pas là pour faire du raccommodage. On cherche à faire entrer Jésus dans nos plans. On veut qu'il soit là, il s'occupe de ça, mais surtout pas du fond, vous voyez ? Un peu de la forme, mais je crois qu'il faut faire attention. Il n'est pas là pour rendre ma vie douillette et confortable. Ne mettons pas Jésus dans ce but-là. Il est venu apporter un vêtement complet. Il veut tout changer. Un homme voulait vendre son pavillon, qui avait pas mal de défauts. Alors il se dit, voilà ce que je vais faire. Je vais cacher un peu la misère. Je vais mettre un coup de peinture un peu à droite à gauche, là où c'est bien abîmé. Je vais maquiller un petit peu avec du plâtre. Et il fait ça. Et puis effectivement, la maison prend une autre tournure. Et il met son annonce. Et une personne vient. Une personne vient voir et la personne fait un tour rapide de la maison. Et rapidement, l'affaire est conclue. Le vendeur se dit, j'aurais même pu le vendre plus cher. Si j'avais été plus audacieux. Et rapidement, donc, la vente se fait, puis donc lui, il va habiter ailleurs. Puis quelques temps après, le vendeur se dit, je vais retourner voir ma maison. Et quand il retourne, il voit plus sa maison, il n'y a plus rien. Elle a été rasée ou elle a disparu. Alors il est surpris, il va voir l'acheteur, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la maison ? Il dit, mais votre maison, elle ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était le terrain. C'est la même chose avec nous. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est le terrain. Ce qu'on a bâti, c'est de la ruine, hein. C'est de la bricole. Et je crois qu'il y a... Dieu veut faire un travail en profondeur. Nous, on lui demande des fois de réparer un petit peu des ruines. On lui demande de faire du bricolage. Et Jésus ne veut pas rafraîchir la maison. Hein. Il veut en bâtir une nouvelle. Il veut faire une œuvre en profondeur. Et c'est bon de s'en rappeler avec cette histoire. Jésus veut faire une œuvre en profondeur. Il veut faire de nous... quelqu'un avec un caractère nouveau, avec une mentalité nouvelle. Jésus veut faire de nous un adorateur en esprit, en vérité. Jésus veut faire de nous non seulement un racheté, mais un disciple de Jésus-Christ. Jésus veut faire de nous des témoins de la grâce. Et c'est bon de se le rappeler. Cette pensée, elle me paraissait importante. Une quatrième leçon que je retiens de cette histoire. Cherchons à être un bon contenant. Là, je suis plutôt sur la parabole des outres. Elle nous montre finalement ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous soyons de bons réceptacles. L'apôtre Paul nous compare à un moment donné à des vases, mais des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et là aussi, cette parole de l'apôtre Paul met l'accent non pas sur le contenant, mais sur le contenu. Et nous sommes des vases de terre et nous sommes de vieilles outres, pour ne pas dire de vieilles peaux. Et ce qui importe, c'est le contenu. Ce n'est pas l'extérieur, parce que l'extérieur, il se dégrade. On se défraîchit. On est ébréché, pour ne pas dire fêlé. Mais on n'échappe pas à la loi du vieillissement. La Bible nous invite à mettre la priorité sur l'intérieur. L'être extérieur se détruit de jour en jour. Mais l'homme intérieur a la possibilité de se renouveler à l'intérieur. Et nous, il nous faut veiller sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et on sait très bien en plus que Jésus a mis en garde les pharisiens parce qu'ils s'occupaient de l'extérieur et ils négligeaient l'intérieur. Mais si je veux agir sur l'extérieur, je dois d'abord me préoccuper de l'intérieur afin que l'extérieur devienne net. Et ce qu'on attendait d'une outre, c'était quoi? C'était pas qu'elle soit belle, hein. Mais ce qu'on attendait d'une outre, c'est qu'elle soit souple et malléable. Et finalement, c'est ce que Jésus nous demande. Une outre, qu'on soit une outre disponible, malléable, et qu'il puisse la remplir. C'est une question de réceptivité avant tout. Pas une question de beauté, pas une question de compétence, mais une question de disponibilité. Cette histoire me rappelle bien sûr l'histoire de la veuve avec ses deux enfants, où elle présentait des vases. Et tant qu'on pouvait remplir les vases, ça se remplissait. C'est une question de réceptivité. C'est bon de se le rappeler. Jésus a dit que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent à des enfants. Alors, les enfants, ils aiment bien ça. Parce que les enfants, ils ont des qualités que les adultes perdent. Ils en ont au moins deux qui rejoignent. C'est la souplesse et la malléabilité. Ils sont souples, manipulables, mais ils sont souples. Et nous, on veut avoir cette qualité-là entre les mains de Dieu. Parce que si on est rigide, la grâce, elle peut pas nous transformer à l'intérieur. Elle ne peut pas agir. Rappelons-nous quand même aussi que les outres nous parlent aussi de mort à soi-même. J'ai parlé de vieilles peaux, hein, c'est pas pour rien. Mais elles sont faites avec le cadavre d'un animal. Alors, je ne sais pas quel animal c'était. Je ne pense pas que c'était le cochon. Je pense que c'était peut-être le mouton, l'agneau, peut-être un animal plus gros. Mais il y a cette idée, en tous les cas, de mort à soi-même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Rappelons-nous que cette histoire d'outre met l'accent non pas sur le contenant, mais sur le contenu. Veillons à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et puis, une cinquième leçon. Je ne sais pas si vous avez été interpellé, mais je le relis avec vous. La conclusion de ce que Jésus dit, c'est étonnant. Jésus met l'accent sur le vin nouveau, et à la fin, on a l'impression qu'il revient sur le vin vieux. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». La conclusion, elle est étonnante. D'ailleurs, on ne la trouve pas dans Matthieu, et on ne la trouve pas dans Marc. Alors, c'est vrai que le vin vieux est en principe meilleur que le nouveau, mais Jésus veut dire quoi? Je le comprends comme ça. Jésus veut dire, notamment aux disciples de Jean-Baptiste, que ils en étaient encore pour eux à considérer que leur pratique était meilleure que ce que Jésus proposait. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que Jésus proposait. Et c'est vrai que la grâce, tant qu'on ne l'a pas vécue, tant qu'on ne l'a pas expérimentée dans son cœur, on ne peut pas l'expliquer. C'est quelque chose de grand et fabuleux, mais la loi était bonne. La loi était bonne, c'était, et eux, ils en étaient là. Donc Jésus leur dit, c'est bon, le vieux est bon. Et je remarque en tous les cas la douceur de Jésus. La délicatesse de Jésus dans ses propos. Il sait très bien que dans ses propos, il ne peut pas être compris. Il ne les blâme pas, mais il est patient avec eux. Et là, il y a en tout cas une pensée qui est intéressante. C'est la semaine passée, je regardais le film Zwingli. C'est l'histoire d'un réformateur qui fut un réformateur méthodique, plutôt un pacifiste, pacifique. D'où, à la différence d'autres réformateurs comme Luther. Et ce qui m'a interpellé, ce que j'ai retenu dans ce film, c'est finalement la difficulté dans la réforme à aller à la bonne vitesse. J'ai toujours eu cette pensée que la réforme n'est pas allée assez vite ou aller trop loin. Mais dans le texte, on prend conscience que finalement, si on allait trop vite, la population n'aurait pas suivi, les gens n'auraient pas suivi. Et ça m'a interpellé. Et ça rejoint un petit peu cette pensée que je vous encourage à le regarder, hein. Mais ça me ramène sur cette pensée que Jésus, il sait très bien que les gens qui sont autour de lui ne peuvent pas comprendre ce qu'il explique. Ils ne peuvent pas tout comprendre, mais il ne les blâme pas. il est patient avec eux. Ça nous rappelle que Jésus n'éteint pas le lumignon qui fume. Jésus ne méprise pas les faibles commencements. Jésus ne met pas de côté ceux qui ne comprennent pas. Jésus n'est pas dur avec le faible. Et ça, c'est une attitude qui doit nous caractériser aussi. La Bible nous dit d'accueillir ceux qui sont faibles dans la foi. La Bible nous dit de patienter, de supporter. Et je crois qu'il peut y avoir au milieu de nous, on n'est pas tous au même niveau. Il y a des gens qui vont vite, il y en a qui vont doucement. Il y en a qui captent très vite. Il y en a qui ont du vécu. Il y en a qui vont beaucoup moins vite. Alors pourquoi ils vont moins vite ? Pour différentes raisons. Mais je remarque que Jésus est doux dans sa manière de gérer la compréhension des autres. Et rappelons-nous que la Bible nous invite à nous conduire avec les autres, comme Christ s'est conduit avec nous. Et rappelons-nous qu'avec nous, il a fait preuve de patience. Hein. Il a patienté. Rappelons-nous qu'il a fait preuve de grâce avec nous. Rappelons-nous qu'il continue d'exercer sa grâce avec nous. Rappelons-nous que lui aussi, des fois, il pourrait souffler. Hein. Celui-là, cela. Mais c'est bon de se le rappeler. Hein. La Bible nous invite à agir avec les autres, comme Christ a agi avec nous. Et je crois qu'il y a cette pensée qui est là quand Jésus dit « Personne après avoir bu du vin vieux ne veut du nouveau car il dit le vieux. » Et bon, il comprenait que le Jean-Baptiste ne pouvait pas comprendre ce qu'il disait. Et c'est un peu une parole pour les encourager, essayer d'aller à leur rythme. Ils savaient qu'à un moment donné, peut-être plus tard, ils pourraient saisir la grâce, pourraient capter ces choses-là. Voilà 5 pensées que je voulais vous laisser à partir de cette histoire. Je voulais les rappeler. La première pensée, bien évidemment, c'était de ne pas mélanger la loi et la grâce. La deuxième pensée, c'était de veiller à ne pas faire des assemblages douteux. La troisième, c'était de se rappeler que Dieu et Jésus ne veut pas faire du rafistolage. Il veut nous changer en profondeur. Rappelons-nous aussi que d'être patient et doux avec les autres. Et puis, cherchons à être un bon contenant pour avoir du bon contenu. Que le Seigneur nous aide. On prie. Seigneur, merci pour tout ce qu'on trouve dans ta parole et aide-nous à être de bonnes outres, des outres neuves, Seigneur, pour que tu puisses y déverser ta grâce, ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à nous dépouiller de nos haillons, nos vieux vêtements, pour pouvoir revêtir le vêtement de justice que tu nous as donné. Nous désirons être, Seigneur, de bons contenants, pas tellement sur l'apparence extérieure, mais par rapport à ce qu'il y aura de bon à l'intérieur. Aide-nous, Seigneur. Prions, Seigneur, pour que tu nous aides dans notre attitude avec ceux qui ne comprennent pas toujours, qui ne vont pas à notre tripe. Aide-nous, Seigneur, à ne pas éteindre le lumignon qui fume, à ne pas être dur et cassant. On veut être exigeant avec nous-mêmes, mais conciliant avec les autres. On a besoin de ta grâce et de ton secours, Seigneur. Merci de bénir les vieilles outres que nous sommes, Seigneur. Fais-nous des outres neuves, Seigneur. C'est bien notre prière, notre besoin. Merci de faire ton œuvre dans le cœur de chacun. Pour certains, ce matin, c'est une conversion, une vie changée que nous demandons. Pour la plupart, pour beaucoup d'autres, c'est de continuer ton œuvre à nous transformer. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen.